Candidat Pierre, ici présente, apprécie particulièrement. Écoute, ma sœur encore emmaillotée dans les langes de l'indifférence, somnolente et dolente, tu suis le chemin coutumier des lentes habitudes. Ne veux-tu pas, dégageant d'un effort puissant ta forme décantée, délivrée du fardeau des gènes ancestrales, ne veux-tu pas, Ève nouvelle, noire et si belle, qui porte dans tes yeux baissés l'acquiescement des races résignées, surgir, remodeler sur les hauteurs que balaye la palme et, contempler face à l'immensité des destins révélés dans la grande lumière de ton être enfin réalisé, les générations sorties de tes beaux flancs bronzés. Je vous remercie.
Madame la maire de Paris, Madame la maire du 14e arrondissement, Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et religieuses, Mesdames et messieurs les invités, chers amis, chères familles. Paulette et Jeanne Nardal sont deux des six sœurs de ma grand-mère maternelle, Cécile. Paulette, aux engagements et actions multiples, secrétaire parlementaire, rédactrice notamment de la revue du Monde Noir et de la Femme dans la Cité, professeure d'anglais, activiste politique et créatrice du Rassemblement féminin, parti politique qui appelle les femmes à utiliser leur droit de vote si nouvellement acquis. Paulette était aussi musicienne et créatrice d'une chorale. Jeanne, brillante étudiante à la Sorbonne, a collaboré à la revue de Paulette. Elle a mené une carrière d'enseignante en français, latin, grec, en Martinique, puis au Tchad pendant 2 ans. Elle tente de se lancer en politique, mais abandonne face à de nombreuses oppositions et difficultés. J'ai mentionné la revue du Monde Noir. C'était un journal qui ne comptera que 6 numéros, faute d'argent. La revue était déjà bilingue, publiée en français et en anglais. Elle se voulait être une tribune pour les Noirs du monde entier. En bref, nous rendons hommage à deux femmes dont l'idéal était de servir, se rendre utile et créer entre Noirs du monde entier un lien intellectuel, moral et culturel. C'est un bonheur de voir qu'une centaine d'années après leurs choix fondamentaux et révolutionnaires, au plan des idées, sont reconnues et appréciées. Cela leur a coûté, car elles étaient en fait très, voire trop en avance sur leur temps. Paulette et Jeanne ont été l'objet de beaucoup d'incompréhensions à l'époque. Ces choix, si on les considère avec notre œil aujourd'hui en 2019, étaient profondément humanistes, mais étaient loin de recueillir l'adhésion de tous. Pour leur nièce, Christiane Hédapierre et Annie Ramin, ici présentes, c'est un bonheur. Elles les ont connues, ont pu échanger avec elles et mesurer la part de souffrance engendrée par ces choix. Pour toute la famille, c'est un grand honneur. C'est dans notre île en Martinique que ces choix ont été d'abord salués. Aimé Césaire, en 1986, maire de Fort-de-France, a proposé le nom de la place Paulette Nardal à un lieu public de notre capitale outre-Atlantique. L'importance des choix et actions de Paulette et Jeanne est maintenant reconnue par Paris, capitale de la France. Nous remercions aussi à cette occasion Catherine Marceline et les membres du comité Paulette Nardal au Panthéon qui, grâce à leur action, contribuent à faire connaître largement le travail effectué par Paulette et Jeanne. Ces actions ont laissé des traces toujours d'actualité. Et je me plais à imaginer, petits et grands, femmes et hommes, adolescents et personnes plus âgées, se balader ici sur cette promenade au nom de mes grandes tantes. Paulette et Jeanne ont contribué d'une manière concrète à la promotion et au développement d'idées humanistes et universelles. Cet espace de verdure est un cadre idéal pour matérialiser cette reconnaissance. Au nom de toute notre famille, nous remercions très chaleureusement Madame la maire de Paris, Madame la maire du 14e arrondissement et tous ceux qui ont contribué à cette reconnaissance.
Je vous demande d'accueillir maintenant Madame Anne Hidalgo, maire de Paris.
Bonjour. Bonjour d'abord, chère Karine Petit. C'est un plaisir d'être là avec l'ensemble des équipes du 14e, les élus aussi de Paris, de la région, Madame la députée, chère Georges Pau-Langevin, et d'être présente avec vous, les familles, les amis, des femmes et des hommes que nous allons honorer ce matin. C'est un immense plaisir et en fait, beaucoup de choses prennent sens ici, à cet endroit précis. Beaucoup de choses prennent sens parce que ce lieu, Karine l'a très bien dit, nous l'avons voulu comme un lieu ouvert, un lieu qui donne des espaces de respiration, un lieu qui renoue avec la nature, qui respecte la biodiversité de la capitale. Ce lieu, nous l'avons voulu aussi dans un projet qui, dans le temps, s'est étalé d'aménagement d'un quartier ici, du 14e arrondissement, qui ne pouvait pas simplement être livré à la promotion immobilière privée et donner lieu à une ville qui ne serait pas la nôtre. Et une ville qui n'aurait plus grand-chose à voir avec les valeurs de Paris et ce souhait très fort qu'ont tous les Parisiens, d'où qu'ils viennent. Sacha Guitry disait « Être parisien, ce n'est pas être né à Paris, c'est y renaître ». Nous sommes très nombreux à être nés une deuxième fois à Paris. Eh bien, c'est de donner à tous ces Parisiens, d'où qu'ils viennent, qu'ils aiment Paris, qu'ils y habitent, qu'ils le visitent, de leur donner la possibilité de porter les valeurs de cette ville au quotidien, dans nos vies quotidiennes. Et ce lieu, nous l'avons voulu aussi avec les habitants. Je veux remercier vraiment tous les collectifs, toutes les équipes, les fonctionnaires, les architectes, les urbanistes, les collectifs citoyens qui ont participé à cette œuvre commune. Et ce qui fait sens, c'est de donner un nom à ce lieu qui est une œuvre commune de notre quotidien, qui s'inscrit maintenant dans notre quotidien, mais qui au départ était dans nos imaginaires. D'ailleurs, on nous disait, enfin, vous n'y pensez pas quand même, à Paris, le moindre mètre carré doit être construit, le moindre mètre carré doit être valorisé. Et nous avions déjà, il y a 15 ans, 10 ans, une autre approche de la valeur des choses. Bien sûr que la valeur, elle est économique, elle est marchande, mais la valeur, elle est aussi dans ce que l'on vit, dans ce que l'on ressent, dans ce que les lieux provoquent comme sentiments qui nous permettent de mieux vivre ensemble. Et ce qui fait sens, c'est de donner aujourd'hui, ici, à ce lieu, ces noms et ce nom concernant les sœurs Nardal, qui fait sens eu égard à leur combat. Vous l'avez dit, elles étaient très très en avance sur leur temps, sur leur époque, et sans doute le choix de vie qui a été le leur était un choix bien sûr courageux, sans doute souvent douloureux, mais je pense que ce qu'elles ont laissé, ce qu'elles nous laissent, ce qu'elles nous permettront de découvrir maintenant, dans un instant, quand leurs noms seront dévoilés, est sans doute à la hauteur du sacrifice qui a été le leur. Et aujourd'hui, nous mettons donc à l'honneur ces deux femmes d'exception qui n'ont pas eu encore la notoriété qu'elles méritaient, ces deux sœurs, Paulette et Jeanne, dites Jeanne Nardal, qui furent parmi, vous l'avez dit, les figures les plus importantes du milieu ultramarin parisien, notamment dans l'entre-deux-guerres. On prête volontiers, là aussi vous l'avez dit, la paternité à la négritude, Césaire ou Senghor, ces noms connus de tous et que nous vénérons et que nous portons dans nos cœurs. Mais on oublie en fait que ce sont ces deux femmes qui en ont posé les bases théoriques et philosophiques. Elles sont nées en Martinique, au tournant du XXe siècle. Paulette et Jeanne Nardal étaient descendantes d'esclaves. Leur père, Paul Nardal, était un ingénieur des ponts et chaussées. Leur mère, Louise Achille, institutrice et musicienne. Ensemble, ils ont eu 7 filles et ils leur ont transmis leur engagement dans l'effort et leur passion pour les arts. Cette passion d'ailleurs pour les arts s'est perpétuée au sein de la famille, de génération en génération. Et donc c'est pour moi l'occasion vraiment de saluer tous les membres de la famille présents, et en particulier bien sûr ses nièces, Christiane et Dapierre, grande cantatrice, et Annie Ramin, ici présente, et bien sûr ses petites nièces également. Ce n'est pas un hasard si Paulette, l'aînée, est aussi devenue à son tour institutrice, enseigner, transmettre et continuer à apprendre. À 24 ans, Paulette s'installe en métropole pour étudier à la Sorbonne. Elle est la première femme noire à avoir fréquenté ces bancs. Jeanne l'y rejoint ensuite, en 1923, et ensemble, elles vont tenir très vite un salon littéraire, pas à Paris, à Clamart, dans un petit appartement qu'elles partagent. Et dans ce petit salon littéraire viennent de très nombreux écrivains, des intellectuels, des Antilles, d'Afrique, d'Amérique. Bien sûr, Césaire, Senghor, Damas, René Maran, Jean Prysmars et les intellectuels et artistes noirs américains du mouvement Harlem Renaissance. Ce dont il s'agit alors, c'est de défendre une culture, de déconstruire l'image du noir hérité de l'esclavage et de la colonisation pour affirmer une fierté, celle des peuples afrodescendants, et faire naître une véritable conscience. Jeanne et Paulette comprennent qu'il faut mettre en relation toutes les diasporas, et un bouillonnement s'opère, dont il faut dégager des concepts et les traduire par écrit. En 1928, Jeanne fait partie de ces rares femmes fondatrices de la Dépêche africaine. Ses sœurs, Jeanne et André, aussi seront contributrices de cette revue, tout comme d'ailleurs leur cousin, Louis-Thomas Achille. En 1932, Paulette fonde à son tour la Revue du Monde Noir avec sa sœur André et l'écrivain haïtien Léo Sajou. Césaire et Senghor prendront la suite. Et à ce sujet, Paulette écrit avec une cinglante ironie, mais je pense qu'elle a tellement raison, elle écrit: Césaire et Senghor ont repris les idées que nous avons brandies et les ont exprimées avec beaucoup plus d'étincelles. Nous n'étions que des femmes. Nous avons balisé les pistes pour les hommes. En fait, aujourd'hui, on ne balise pas les pistes pour les hommes. Et je pense que les femmes, peut-être, leur rapport au temps, et oui, leur rapport à la vie, leur rapport au temps et au temps long fait que peut-être on a quelques prédispositions pour regarder devant nous ce temps long, mais on a la chance d'être accompagné aujourd'hui par des hommes qui partagent ces visions humanistes. Pourtant, l'héritage qu'elles nous ont laissé, qui est méconnu, est immense et universel. Beaucoup de figures de la littérature, bien sûr, Toni Morrison, prix Nobel de littérature en 93, qui vient de nous quitter le 5 août dernier, mais aussi Maryse Condé, prix Nobel alternatif de littérature en 2018, à qui la ville de Paris est fière d'avoir remis en mars dernier une médaille grand vermeil. Ces femmes, ces écrivains, ces grandes artistes ont sans doute été inspirées par leur œuvre. En février dernier, lors de mon dernier déplacement en Martinique et en Guadeloupe, j'ai discuté avec le président de la Fondation Aimé Césaire, Serge Letchimy, et bien sûr avec aussi le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre. M'accompagnaient Georges Poulangevin et puis Jacques Galvani, ici présent. Et nous avons décidé évidemment de renforcer, de tisser plus fortement encore les liens qui nous unissent entre les fondations culturelles, les institutions culturelles et éducatives parisiennes et ces institutions qui partent de ce qu'ont apporté ces grands auteurs et notamment bien sûr Aimé Césaire. Je le dis ici, que je vénère. Voilà, pour moi, Aimé Césaire est sans doute, avec Victor Hugo, la deuxième très très grande figure universelle de la littérature et de l'écriture. La ville de Paris apportera son soutien d'ailleurs au projet de réhabilitation de la maison d'Aimé Césaire à Fort-de-France. Ce fut tellement émouvant de la découvrir, de la visiter, de voir les lieux où il était. Mais de Paulette Nardal, je veux dire aussi un mot de ses engagements politiques et sociétaux. D'abord pour la liberté en 1939, quand de retour de Martinique, vous l'avez dit, elle va donner des cours d'anglais à des jeunes clandestinement, désireux de rejoindre Charles de Gaulle à Londres. Pour l'émancipation des femmes aussi, à la libération, elle crée le rassemblement féminin. Ensuite, il y a eu dans différents pays européens, je pense notamment aux pays du nord de l'Europe, des partis des femmes qui considéraient qu'elles devaient s'organiser de façon partisane pour défendre leurs droits, puisque c'était tellement difficile, ne serait-ce que d'obtenir le droit de vote. Et jusqu'à la fin de la vie, elle continuera à œuvrer pour les femmes en lançant aussi cette revue « Les femmes dans la cité » en 1948. Elle ira plaider leur cause à l'ONU. Elle va mener des actions sociales et culturelles pour aider les filles mères en Martinique ou bien dans la tradition artistique de la famille en créant cette chorale dont vous avez parlé avant et qui, je crois, existe encore. Une association, vous l'avez dit, milite pour son transfert au Panthéon. Elle est présidée par maître Jean-Claude Beaujour, également présent, je veux le saluer. Et merci d'être là. Et animée aussi par le journaliste François Durper. Je veux les remercier. Je veux vous dire, chère Christiane et Dapierre, chers descendants des sœurs Nardal présentes ici aujourd'hui, ce lieu paisible exprime cette reconnaissance des Parisiennes et des Parisiens pour le rôle de ces deux femmes exceptionnelles. Je vous accompagnerai en tant que maire de Paris dans votre combat pour la panthéanisation. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez, je crois, compter sur nos équipes, ces femmes exceptionnelles, des militantes, des combattantes, des intellectuelles, des féministes, des avant-gardistes, tellement courageuses et inspirantes. Ce sont ces femmes qui font que nous nous levons aussi tous les matins et que nous nous disons, même si parfois c'est difficile de faire changer les habitudes, même si c'est toujours très difficile quand on est une femme d'occuper des positions de grande visibilité, encore aujourd'hui en 2019, même si c'est très difficile, et bien justement ce sont ces grandes figures qui nous aident à nous dire debout, avance, continue, d'autres ont tracé un chemin, elles ont tracé un chemin, et il est hors de question que nous ne l'emprunterions pas ensemble et que nous ne soyons pas très nombreuses et très nombreux à avancer avec ses valeurs humanistes chevillées au corps. Merci infiniment. Merci.